Alors, donc moi, je suis physicienne de formation. Je m'intéresse au numérique depuis de nombreuses années. Et en fait, j'allais à la pêche aux infos au départ, enfin aux ressources sur Internet. Et j'expliquais aux étudiants que c'était important de ne pas prendre n'importe quelle information. Justement, d'essayer d'avoir un regard critique. Et donc, je leur disais, commencez par aller voir dans notre bibliothèque, dans la bibliothèque, et leur donner un certain nombre de pistes, on va dire. Et puis, on avait une plateforme maison qui nous permettait de faire des prescriptions. C'est-à-dire qu'on leur disait, ben, on va réfléchir en activité. Donc, on avait une activité de cours, etc., un peu comme vous avez pu les rencontrer jusqu'à présent. Et on leur disait, allez sur tel et tel endroit, telle ressource, à tel endroit, vous avez quelque chose qui est intéressant. Ça se faisait dans le cadre de l'université en ligne. Et puis, quand Uniciel est arrivé, on a repris l'ensemble des ressources qui étaient dans l'université en ligne. Donc, on avait à peu près, en sciences fondamentales, à peu près le DEUG, hein, qui était couvert. Et donc, on a repris ça et on s'est dit, il faut qu'on redécoupe nos ressources. Parce que nos ressources, c'était des gros modules. C'était le module d'optique géométrique, par exemple, donc avec 30 heures de cours présentiels, etc. Donc, c'était trop gros. Donc, on les a redécoupés. On les passe, actuellement, elles sont en train de passer aussi sous Opal, de manière à pouvoir les recontextualiser. Parce qu'on s'est aperçu que la demande des étudiants, enfin, tout au cas pour l'initial, c'était plutôt justement des QCM, des cours. Et donc actuellement, on travaille sur des tests de positionnement, justement pour que les étudiants sachent où ils en sont vis-à-vis de leurs prérequis. Voilà, donc on travaille sur cette partie-là. Et donc, par exemple, Topaz nous permet d'être la fonctionnalité d'agrégation, je dirais, de prescription au-dessus. Alors, ce ne sont que... Non, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que c'est un problème des jargons, vous savez. Dans toute discipline, on en vient vite à nos jargons. Alors, Scénaris, c'est une chaîne éditoriale. Donc, sortie multi-support avec un éditeur particulier, on va dire, qui va autoriser ces sorties multi-support. Et après, ben, on a des modèles documentaires. D'accord ? C'est-à-dire, ben, quand vous ne faites pas... un rapport, un journal, enfin un papier pour un journal ou un livre de la même manière. Vous obéissez à des critères de présentation du document. Alors ça, c'est le modèle documentaire en lui-même. Et puis, à ce modèle documentaire sont adjoints, je dirais, les balises pédagogiques qui vont aller rendre les intentionnalités pédagogiques sous les modèles. Et bien entendu, les intentionnalités ne sont pas obligatoirement les mêmes selon l'environnement dans lequel vous êtes. Et donc, vous allez avoir des modèles, des balises particulières, des agencements particuliers et du coup, des modèles particuliers. Donc, Scénaris, c'est la chaîne. Opal est un modèle qui est le modèle académique, aussi bien pour le secondaire que le supérieur. Opal Sup est une déclinaison plutôt pour le supérieur. Hein, donc. Et puis après, ce qu'on présente, donc Topaz, lui permet d'agréger les modèles, les petites parties académiques avec ses fonctionnalités d'indicateurs, donc en récupérant les notes, les résultats, le scoring des étudiants pour les amener sur tel et tel endroit. Après, vous avez le cas clinique qui a été présenté, qui est aussi une autre manière d'aborder les ressources. Voilà. Ça répond à votre question ? Un peu ?
Non, je suis sûr que ça ne répond pas directement à la question de Joseph. Qui est encore plus pratico-pratique que ça, non pas Joseph, mais beaucoup d'entre nous, qui n'avons pas beaucoup d'expérience, et qui est en pratique comment demain on constitue un QCM dans chacune de nos disciplines, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'y prend en pratique, qu'est-ce que je fais, je vais sur Google et je tape Topaz, et là j'ai le mode d'emploi, voilà. C'est comment. En plus, on n'a pas tous, on l'évoquait tout à l'heure, on n'a pas tous des services TIS dans nos universités qui sont non pas à niveau, elles le sont la plupart du temps, mais avec pas les moyens suffisants humains, et donc pas le temps de nous aider et de nous tenir la main pour nous former à ce type de problématiques. Donc en pratique, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Voilà, on est là. On y connaît très peu de choses. On sait se servir effectivement d'une souris et d'un écran. Mais voilà, à peine plus, quoi.
On a tous nos habitudes. Quand on souligne, par exemple, ça signifie quelque chose. Mais donc, il faut arriver à remonter de ce qu'on a mis dans le fait de souligner le titre, à remonter à l'identification qu'il y a dans cet outil qui est Scénaris. Et c'est souvent là qu'est la grande difficulté de la formation. C'est d'arriver nous-mêmes de dire, on ne sait pas. Ce qu'on a. Donc, quand on a un support de cours qui est prêt, note poli, il faut aller dire, Et c'est là où la cellule TIS est quand même assez important d'aller discuter, cellule TIS ou enseignant utilisateur, hein, ça, je suis d'accord avec Pierre, de remonter à ça. Mais pour les QCM, c'est moins compliqué, en effet, que sur un cours. Donc, c'est vrai que si vous avez conçu votre QCM, il y a sur Scénari Platform, donc, qui est le site qui permet de télécharger, il y a le modèle à télécharger, et il y a aussi une documentation qui permet de faire ses premiers pas, et qui est quand même assez simple.
Nos enseignants, c'est que justement, il ne faut pas leur faire peur. Ceux qui aiment bien bricoler, c'est vrai que ça vaut le coup. Moi, je l'ai pris, mais je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le temps. Ça prend du temps, il a beau dire. Puis, j'étais en train de discuter avec ma voisine en disant, je ne sais pas comment il fait tout. En plus, il aide les copains. Non seulement il fait son boulot, il est directeur du CRI, et en plus, quand tes enseignants viennent lui demander un coup de main, et il leur explique en trois heures dans une matinée, ça prend quand même déjà du temps, je trouve. Hein, c'est pas rien. S'il y a plusieurs enseignants qui viennent le voir. Donc ça montre quand même que c'est un investissement en temps important, mais qui n'est pas rédhibitoire.
Ce que je voudrais préciser, c'est que il n'y a pas que Lille et Angers, donc il y a des services TIS partout. Voudrais préciser aussi que Scénari est utilisé par pratiquement toutes les UNT.
À Nancy, il n'y a pas de problème
donc,
pour nous.
Donc vous pouvez vous faire aider. Et pour revenir à ce qu'il faut retenir sur le plan pratique, c'est qu'il faut effectivement un document sur Word rédigé, et puis avec un plan. Et ensuite, vous prenez un surligneur, et puis les balises pédagogiques, ben ça c'est une définition, ça c'est fondamental, ça c'est un commentaire, etc. Moi je dis aux enseignants, vous venez avec ça, on vous le médiatise, et après ils comprennent, et du coup ils avancent dans la progression.
Je vais reprendre ma casquette de responsable de service TIS aussi, et on a exactement la même démarche, on a la première réunion avec les enseignants où on leur dit de travailler leur support, mais de travailler leur support, de faire ce qu'ils veulent, et de réfléchir. On fait un travail de maïeutique avec eux, vraiment en leur disant, voilà, pourquoi vous avez pris ça à tel endroit, pourquoi, sur votre plan, pourquoi vous avez choisi de faire telle activité, hein, parce qu'on parle aussi sur les activités, pourquoi vous mettez... Et très souvent, on s'aperçoit qu'au final, ils disent, ah ben c'est parce qu'en fait, là, je sais, par expérience, que les étudiants ont du mal sur ce point-là. Donc, je veux mettre un exercice auparavant. Donc, je vais mettre une activité d'exercice. Alors, ça peut être un QCM, ça peut être une question ouverte, souvent, pour les faire réfléchir. Et une fois qu'il y a la réponse, ah ben alors à ce moment-là, je vais faire mon cours structuré de telle et telle manière. Et je veux qu'ils aient la définition, mais la définition, elle doit venir après la question, etc., etc. Et donc c'est plus, enfin en tant que cellule TIS, on travaille souvent plus sur ce point-là, sur cette partie de leur dire réfléchissez réellement à ce que vous voulez faire passer comme message et pourquoi, plutôt que sur la partie technique. On leur dit, une fois que vous nous avez fourni le document avec les balises ou le pourquoi, et ça, après, nous, on n'a pas de souci à le médiatiser, c'est l'outil, ça tourne, quoi. Et une fois qu'ils ont vu ça, après, très souvent, ils s'y mettent, c'est vrai. Le premier pas, c'est de leur montrer, et après, ils s'y mettent.
Ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'en fait, le travail pédagogique est énorme. En fait, il ne faut pas regarder l'outil informatique. L'outil informatique, c'est un outil qui va nous rendre quelque chose où on sera content. Ça sera beau, parce qu'on en... Mais tout travail de réflexion. Moi, je voulais vous le présenter tout à l'heure, on n'aura peut-être pas le temps, mais si j'ai fait du brise avec tout au début, parce que j'ai travaillé avec la cellule C2I niveau 1, avec les médecins, avec Pagoni et Pierre Gillois. Je veux dire, bon, ça m'a pris du temps dans le sens où je parlais dans un micro et de temps en temps, je tousse, donc bon, je m'arrêtais, je recommençais, etc. Mais bon, ça m'a pris que ce temps-là, c'est-à-dire ça m'a pris le temps de m'enregistrer. C'est-à-dire que le temps du cours, quoi, avec un petit peu de réforme. Par contre, le même cours, je l'ai fait sur... Et ça, je l'ai fait sur Scénari, ça prend du temps. Alors, je suis là peut-être un petit peu à l'encontre de ce qu'il dit, c'est ça prend du temps. Il faut des enseignants qui soient motivés. Et je pense qu'avec maintenant, peut-être une reconnaissance un peu plus fine du travail pédagogique de nos enseignants-chercheurs, on pourra peut-être... Mais il faut obligatoirement hyper bien structurer, sinon, alors, si on veut faire des petites questions, c'est ce que je vous disais, des exercices, des questions, tout ça, ça tourne bien, il n'y a pas de problème. Mais si on veut quelque chose un cours qui tienne la route, il faut faire véritablement, moi j'ai redécouvert mon cours, j'étais obligée de refondre mon cours, alors que c'est quelque chose que je faisais depuis 2 ans, 3 ans, sans difficulté, j'ai l'impression de le connaître par cœur. Il a fallu que je restructure tout.
Sur 3 aspects, il y a un retour en investissement. D'abord, dans la mesure où vous faites une génération papier web, ça on l'a déjà dit, mais donc en fait, si vous voulez faire du web, vous prenez déjà en main un outil. Donc déjà, vous avez ce gain-là, c'est que vous avez quand même une interface qui est simplifiée. Ouais, mais tu pourras le reprendre dans un instant. Donc, vous avez juste la structuration par item à gauche et à droite, si tu peux avoir voilà, un contenu court. Vous avez en fait, clique dans un paragraphe, s'il te plaît. Vous avez une série d'items qui sont apparus tout en haut, qui en fait sont des choses que vous connaissez très bien, et sont déjà des éléments d'un traitement de texte classique. Donc là, déjà, en fait, vous avez une interface simplifiée. Donc, vous avez peut-être quelque chose à prendre en charge, mais en même temps, on vous enlève tout le côté, donc effectivement, distinction fond-forme. Et en fait, là, ça présente un deuxième retour sur investissement, c'est dans la mise à jour de votre ressource. C'est quand vous avez un support Word, PDF ou quoi, que vous changez, il y a un changement, vous voulez changer une partie. Si vous n'avez pas votre, si vous n'avez pas votre feuille de style, ou si les enseignants l'ont pas, enfin, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ça, Opal prend en charge toute la mise à jour du contenu, quoi, toute l'arborescence et tout, il prend tout en charge et il fait pas d'erreur de typographie, rien du tout. Donc là-dessus, vous avez un deuxième retour sur investissement. C'est donc la pérennité de votre support, la mise à jour, etc. Et le troisième changement, c'est par exemple, je pense, pour la PACES, pour l'année commune merci. En fait, là, on doit complètement refondre nos supports de formation. Et là, en fait, l'avantage de la structuration par item, c'est que par simple, en fait, vous créez un nouveau module, vous faites de nouveaux glisser-déposer, et vous générez en fait votre nouvelle ressource qui est adaptée à votre niveau. Donc en fait, vous avez l'investissement au départ où vous effectivement prenez en main un nouveau logiciel, mais une fois que vous l'avez en main, chaque année, vous faites que gagner trois fois plus de temps.
Donc vous avez eu l'aspect gain pédagogique, l'aspect gain technique, l'aspect temps, on va dire aussi. Hein. Puis, est-ce qu'on peut parler peut-être de ce qu'attendent les étudiants, parce que ça, autrement, on est beaucoup sur les outils. Et puis, je voudrais bien qu'on revienne sur la formation initiale et sur la partie purement pédagogique.
Bon, alors, tout d'abord, merci à tous les organisateurs de nous avoir conviés à ce congrès pour travailler tous ensemble. La NEF et tous les étudiants en pharmacie sont vraiment demandeurs de toutes ces innovations. Nous, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît. Depuis hier, j'ai eu l'occasion de découvrir énormément de choses. Moi, je viens d'une fac où on n'a pas tout ça. Et du coup, depuis hier, je suis ébahi devant tout le travail que vous avez pu effectuer. Et je comprends que ce soit beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, que ça prenne beaucoup de temps, surtout en ce moment, comme j'ai pu en parler hier avec Dominique Porquet. L'année dernière, on a eu la réforme de la première année. Cette année, il y a le LMD qui va passer. Donc, les UFR ont beaucoup, beaucoup de travail à côté. Et je pense que c'est vraiment important aussi qu'ils consacrent un petit peu de leur temps sur toutes ces innovations. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose, en fait, qui me semble très intéressant. C'est de pouvoir consulter les étudiants pour créer tous vos supports numériques. Les étudiants sont très impliqués au niveau local. Il y a des associations d'étudiants. Nous, on regroupe ces associations d'étudiants au niveau de la NEP. Je pense qu'il serait très intéressé de pouvoir travailler avec chacune de vos équipes pour mettre en place tous ces programmes en fait numériques. Donc je pense qu'ils pourraient vraiment apporter quelque chose de plus au niveau pédagogique. Je pense qu'ils ont vraiment une bonne vision une vision différente de la vôtre. Et je pense que ça pourrait être très intéressant de pouvoir travailler avec eux. Donc moi je vous invite vraiment à essayer de rentrer en contact avec vos associations locales d'étudiants pour pouvoir travailler avec eux. Et nous, en contrepartie, à la NEP, on va aussi aller les voir, on va faire le tour des associations. On a une assemblée générale la semaine prochaine avec toutes les associations de la France. Du coup, on va leur en parler, on va leur expliquer tout le travail que vous faites et à quel point ils peuvent être importants aussi là-dedans. Je pense que c'est un travail ensemble pourrait être très intéressant. On rentre dans une nouvelle ère, en fait, une ère numérique. Il faut vraiment qu'on y aille au plus vite pour pas rater le coche. Et je pense que là, tout est très bien parti déjà, donc moi je suis très content de tout ce qui se fait, et j'espère que ça va continuer, et qu'on va avoir de nouvelles innovations encore qui vont arriver, de nouveaux programmes. Ça a l'air quand même assez compliqué à mettre en place, et ça a l'air assez complexe, mais les gens font du très très beau travail, et c'est très intéressant pour nous en tout cas. Merci.
Est-ce que sur ce que vous avez vu, par exemple, parce qu'on parlait, donc on a vu les ressources grand public et puis celles qui allaient vers les étudiants, est-ce que vous êtes plus sur une recherche de cet ordre-là, avoir des ressources consultables ou les cas cliniques, je sais pas, dans ce que vous avez pu voir, est-ce qu'il y a des aspects qui vous ont plus attiré, on va dire, que d'autres?
C'est vrai qu'on est très demandeur aussi sur tout ce qui est QCM, tout ce qui est exercice. C'est quand même on va perdre beaucoup avec la première année commune. On perd tous les ED, toute l'interactivité qu'on pouvait avoir avec les professeurs. C'est peut-être aussi l'occasion de récupérer un petit peu cette partie qu'on va perdre. Les étudiants aiment vraiment ça. Après, y a, selon les logiciels que j'ai vus, il y a peut-être différents logiciels qui sont peut-être plus avantageux pour eux. J'ai trouvé ça très intéressant, le logiciel où il y avait des paliers avec le 50%. C'était vraiment très intéressant. Pour eux, en tout cas, ça les incite à travailler un peu plus. Et je pense que c'est ce qu'ils recherchent aussi. Hein. Donc, après, honnêtement, je découvre depuis hier énormément de choses. Et, donc, je vais essayer de m'y mettre dedans, essayer de récupérer un petit peu dans chacune de vos facultés tout ce que vous avez pu faire et regarder ce qui pourrait être le mieux pour les étudiants. Mais déjà, avec tout ce qui est là, je pense que c'est vraiment quelque chose de très très bien pour eux.
D'accord, merci. Est-ce que, alors là, je vais poser une question un peu de candide, hein, puisque n'étant pas de pharma, est-ce que vous avez éventuellement pensé à leur poser la question de ce qu'ils recherchaient vis-à-vis des assos étudiants?
Alors,
ou est-ce qu'il y a des retours
C'est plus facile de poser des questions quand il y a déjà des choses qui sont proposées. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand on a créé l'UNSPF, les étudiants m'ont invité, donc on a parlé du projet. Quand on a parlé de la première année en disant qu'on allait peut-être filmer, je me suis fait huer. J'ai cru que vous alliez me virer. Donc, petit à petit, les choses ont évolué. Maintenant qu'on a des choses à montrer, c'est de plus en plus facile. Alors, ce qu'on fait, c'est que on invite puisque nous, on a une seule association d'étudiants. Ceci dit, pour Uniciel, c'est pareil. On les invite aux réunions quand il y a les porteurs de projets, quand on présente les projets, qu'on essaie de trouver des partenaires ou d'élargir un petit peu la cible ou au contraire de focaliser un peu. Donc on leur demande leur avis. Donc je pense que maintenant, on va avoir suffisamment de ressources en ligne pour qu'on ait un retour. Et ce qu'on va peut-être pouvoir mettre en place, c'est des enquêtes. Et ce que je vais proposer à la fin de la journée, tant pis, on va déflorer ma proposition, c'est de proposer aux étudiants de contribuer à la production de ressources, en particulier par rapport au grand public. Du coup, ça va être l'occasion qu'ils aillent voir les ressources et qu'ils produisent des ressources avec leur maître de stage pour le grand public. Ce qui fait que ça va faire des binômes intéressants avec des maîtres de stage qui ont le contexte, qui savent ce que le patient va poser comme question, et puis un étudiant qui va apporter son côté créatif, qui va être content de produire quelque chose, et comme ça on va alimenter le site. Donc si on fait ça avec des échanges, des partenariats maîtres de stage étudiants et des partenariats enseignants étudiants, bien un cours, comme tu disais, qui a été prévu pour les étudiants, on pourrait proposer aux étudiants, ben vous allez le décliner, ce qu'a fait Alain pour un cours sur les dérivés du platine. Au lieu que ce soit l'enseignant qui va le décliner pour le grand public, ben on va dire que c'est un étudiant qui va le faire, sous la responsabilité de l'enseignant. Et du coup, lui, les mots qu'il ne connaît pas bien, il sait lesquels mots il ne connaît pas bien. Donc, et je pense que là, en faisant un binôme comme ça, on va inciter tout le monde à bien tirer parti de ce qu'il y a sur le site. Donc, je suis en train de faire la présentation de ce soir.
Moi, je suis quand même contente parce que ça, c'est un premier. Enfin, en termes de. Même si tu déflores entre les sujets de ce soir, ça me paraît être une bonne idée au niveau de la formation initiale. Pourquoi je devais dire ça? Alors, je vais reprendre une casquette justement d'ancien de formation initiale. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Elles sont peu prescrites dans les établissements. Alors, elles sont parfois sur les ENT, sur des plateformes, elles sont utilisées. Un enseignant l'aimait, il l'aimait pour ses étudiants. Alors selon l'amphi qu'il a, enfin le nombre d'étudiants, elles sont plus ou moins utilisées. Elles ne sont pas obligatoirement utilisées par les autres. Et il n'y a pas obligatoirement de retour pour les étudiants. Ça ne dépasse pas les étudiants du TD. Et ils ne vont pas obligatoirement voir s'il y a autre chose qui pourrait les intéresser sur un autre domaine, sur un autre cours, par un autre enseignant. Donc là, l'idée de Françoise, enfin... L'idée qui est promue ici en disant ben, peut-être qu'il pourrait y avoir associer les étudiants pour faire une déclinaison vers le grand public me paraît une bonne idée parce que ça me donne vraiment une utilisation au niveau de la formation initiale et un regard des étudiants qui manque à mon avis dans beaucoup d'UNT. Donc là vous pourriez aussi prendre les devants sur cette partie-là.
S'il vous plaît,
vas-y Yves.
Je voudrais apporter un témoignage qu'on a fait à l'université de Bordeaux 2. On a une UE d'informatique et on a associé nos étudiants à la production justement de ressources pour l'ENT, pour l'explication des ENT aux autres étudiants. Et on leur a mis en main un petit projet en leur disant, voilà, on vous propose d'utiliser l'outil Scénari. Et on leur a dit, on leur a dit trois mots sur l'outil Scénari. Je leur ai dit, voilà, il faut faire des petits modules. Ensuite, vous utilisez les modules un petit peu comme ça. Bon, mais vraiment trois mots. Et je me suis dit, là, quand même, je vais les coincer pendant un petit moment. Et finalement, trois jours après, la ressource était produite. Et elle était produite de qualité. Avec quelques aides, bien sûr, mais elle était produite de qualité. Ces ressources, elles étaient faites un petit peu à la mort d'étudiants aussi. Et elles ont très, très bien passé quand on a voulu les utiliser. Voilà, donc c'est une petite expérience de Bordeaux. Et après on a même poussé le vice jusqu'à leur dire, puisque vous avez produit une ressource Scénari, on va l'utiliser, puisque vous avez le contenu, hein, on va l'utiliser en faisant une vidéo telle qu'on l'a fait pour les PACES. Donc on leur a dit, vous avez une seule prise, hein, et grâce à vous des CRM, on a pu monter ce projet, vous avez une seule prise, vous révisez un petit peu votre truc, vous montez un PowerPoint qui va bien avec, et vous allez vous faire enregistrer, et ensuite on récupérera les informations pour les utiliser dans notre université. Et ça a très bien marché aussi. Voilà.
Merci beaucoup de ce témoignage.
Je vous mets juste en ligne une version PDF pour montrer la séparation du fond et de la forme. Donc il y a la version web et puis la version PDF donc, qui est générée automatiquement. Donc sur la plateforme Moodle, si vous décidez d'utiliser une ressource, ben, vous pouvez la mettre sur la plateforme, la version web et la version PDF. Par exemple là, je sais que Alain a mis une animation. Donc bien entendu sur la version PDF on ne l'a pas, mais il sait qu'il va la trouver sur la version web. Ça veut dire qu'on sait très bien qu'un étudiant, il apprend pas sur un écran, il apprend sur un papier, et donc il aura le papier, et il l'aura en numérique. Ça veut dire que le pays francophone qui n'a pas de lien internet facile, ben au moins les étudiants, ils auront au moins une version papier en couleur éventuellement.
Moi je voulais juste revenir en fait sur l'expérience qui a été faite à Bordeaux, je trouve ça vraiment très intéressant. Et je pense que pour toutes les autres UFR, ça pourrait être pas mal aussi d'essayer de mettre ça en place avec les étudiants. Et au niveau national, travailler avec la NEF, ça pourrait être bien. Et nous, on pourrait essayer de coordonner un petit peu toutes les UFR en même temps, enfin toutes les associations au niveau des UFR, et développer des projets un petit peu comme à Bordeaux, je pense que ça pourrait vraiment être très bénéfique pour l'enseignement, tout simplement. Et deuxième chose, nous, on a envie vraiment que cette université numérique nous apporte une valeur ajoutée. On veut pas que le numérique remplace nos cours qu'on a d'habitude, on veut vraiment que ce soit un plus pour nous. On veut gagner avec le numérique et j'espère que on arrivera à mettre ça en place tous ensemble.
Juste trois choses. La première, effectivement, on peut pas travailler de façon indépendante des étudiants parce que ce n'est que pour eux et pas pour nous. La deuxième, en revenant, je crois qu'on est vraiment beaucoup un certain nombre là d'enseignants chercheurs qui sommes un peu décalés par rapport aux possibilités qui s'ouvrent à nous. Et si on pouvait essayer d'organiser au plan je sais pas quoi régional, national, une journée quasiment de TP pour nous où on vienne avec un cours et qu'on nous explique comment à partir de ce cours on peut effectivement utiliser Scénari et puis voir ce que ça donne à la sortie, de manière à ce que déjà au moins on puisse partager les mêmes langages, parce que quand on entend parler certains d'entre vous qui sont visiblement déjà très impliqués et avec une certaine expérience, comme le disait Joseph, mais je le rejoignais parce que je me posais les mêmes questions, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Et la troisième question qui est plus qui rejoint pas d'ailleurs ce que tu disais il y a quelques instants, qui est la question un peu fondamentale ou iconoclaste ou politiquement incorrecte. Y a-t-il encore besoin d'un cours magistral lorsqu'on saura vraiment utiliser toutes ces ressources? J'entends par cours magistral le cours que l'on fait en banane amphi avec un amphi de 50, 100 ou 300 ou 500 étudiants. ça remplacera jamais l'enseignement dirigé, l'interactivité et autres. Est-ce que le cours magistral, une fois qu'on saura tous à peu près maîtriser ces outils, en échange entre ceux qui ont produit les ressources, nous ou un collègue ou d'autres, et vous les étudiants, est-ce que ça a encore un sens d'être au bas d'un amphi et de raconter des choses pendant une heure et demie ou trois heures ou 20 heures? Je ne sais pas, j'aimerais bien que vous réagissiez les uns ou les autres.
Oui. Alors, je vais me permettre de donner un avis qui est étonnamment assez partagé au sein des étudiants en France. C'est que le cours magistral, ça reste quand même un vecteur d'émulation qui est vraiment très conséquent. Et je pense que ça n'entraîne pas une... Enfin, on n'a pas forcément un gain pédagogique en basculant à 100% sur ses ressources, mais on a vraiment... On perd, je pense, une dimension qui est un peu... Enfin, c'est pas une compétition, mais une émulation, tout simplement. De se retrouver tous ensemble dans un amphi avec un certain nombre d'étudiants. Il y a une émulation intellectuelle qui s'opère au sein de la promotion, que je pense on perd si on passe sur le tout support numérique.
Je pense qu'on peut l'avoir, mais peut-être pas forcément sous la forme d'un cours magistral. Mais je crois que vous avez des choses à nous dire.
Je ne sais pas, je suis un peu sur le même avis, je dirais, dans l'idée de dire, c'est vrai que le cours magistral, alors, sur le contenu, le vecteur contenu, en effet, je pense qu'il peut être remplacé par un film, un support numérique. Néanmoins, le fait de bloquer un créneau dans un emploi du temps pour un certain nombre de personnes, je vais le dire au sens large, professionnel, c'est ce qu'on fait là, entre guillemets aussi, et pouvoir en discuter après, je ne suis pas sûr qu'on arrive à le remplacer.
Non, je suis d'accord, mais je pense que le cours magistral devrait venir après et pas avant. Francine.
Oui, moi, ce que je voudrais, c'est qu'en fait, je pense qu'on a toujours peur des nouvelles technologies. En fait, ça, qu'est-ce que ça nous donne comme support? C'est un nouveau média, c'est comme un nouveau bouquin. C'est-à-dire, quand on était étudiants, nous jeunes, on achetait des livres. On est obligé de les acheter, c'est sûr. Alors maintenant, on dit on est obligé d'avoir une connexion Internet si on veut avoir ça. Ben oui, parce que si on veut aller chercher le savoir ailleurs que dans un amphi, ben, il faut faire l'effort de soit acheter des bouquins. Alors maintenant, on sait très bien, on n'achète plus de bouquins parce qu'ils sont dépassés tout de suite. Il y a plein d'intérêts dans le web. Il y a l'interactivité, il y a le fait qu'on peut changer immédiatement, la réactualisation. Et donc, je pense que c'est un complément d'un cours. Alors, le cours magistral... tel que nous, on l'a connu déjà, il a disparu. Vous vous souvenez quand même qu'on avait des cours, on n'avait pas de poly. C'était des poly pirates, parce qu'on n'avait pas le droit même d'imaginer de pouvoir retranscrire le cours du professeur. Et puis c'était vraiment le cours... chez nous, c'était comme ça, je vous dirais franchement. Et moi, j'ai quand même un certain âge.
Non, mais
certain
ça, existe, ça existe encore. Hein.
Oui, peut-être, justement. Oui, ça, c'est vrai. Mais donc, justement, mais logiquement, chacun a quand même fait des efforts. Moi, j'ai quand même aussi des enseignants chez nous qui travaillent encore avec la craie et le crayon ou avec des transparents. Mais il y en a quand même de plus en plus qui utilisent un format diaporama. Mais le diaporama, c'est pareil. S'il n'est pas trop structuré, si les gens mettent trop de choses sur le diaporama, il y a certains étudiants qui disent, moi, je préférais le cours avant le diaporama parce que maintenant, ça va tellement vite que j'ai même pas le temps de prendre des notes. Donc, il y a le support et puis il y a la démarche pédagogique. Et c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, il n'y a pas véritablement une avancée si on ne fait pas un effort pédagogique de structuration ou de l'image qu'on veut faire passer du message. Et ça nous oblige, là. Moi, depuis qu'on fait de l'informatique comme ça, moi, où je suis contente, c'est qu'enfin on parle de pédagogie. Parce que, en fait, l'outil nous oblige à repenser aussi bien notre cours magistral que ce type de données. Et tout sera complémentaire au final.
Ouais, d'accord. Je crois beaucoup à la démarche pédagogique. Hein. Moi, je pense que les supports tels qu'on les crée ne sont pas faits pour remplacer les professeurs. Hein. Ils sont pour les aider à faire un meilleur cours. Moi, je crois beaucoup au présentiel accompagné. C'est-à-dire, on fait quand même son cours et on se réfère à des documents qui sont en ligne, des QCM qui sont en ligne, des genres de choses comme ça. Donc moi, je pense que ça pourrait être un très bon apport pour améliorer nos cours de présentiel, sans les supprimer forcément.
Oui, je rebondis sur la proposition de Dominique Porquet, donc, président de la conférence des doyens.
C'était iconoclaste, hein, j'ai bien précisé.
Il n'y a pas de sous-métier. Très très important, de la part d'un président de la conférence des doyens, de proposer une formation des enseignants. Alors, je dirais, j'ai l'âge de dire, il faut que nos assistants, nos maîtres de conférence et nos jeunes puissent être formés à toutes ces techniques, et ne serait-ce que de pouvoir entendre une fois le terme de pédagogie. C'est-à-dire que on recrute des jeunes, et donc on les verse dans la piscine en essayant, et ils reproduisent un modèle qu'ils ont connu, catastrophique. Pour des raisons X ou Y que chacun connaît ici, l'enseignement ne paye pas, c'est chronophage par rapport à la recherche, et un certain nombre d'entre nous, on rame pour essayer de faire reconnaître ça. Donc la proposition de pouvoir se réunir et pouvoir former, je dirais, les jeunes enseignants est une proposition qu'il faut absolument retenir.
Alors, juste un complément pour dire qu'il y a des universités qui ont des politiques très incitatives en la matière. J'en prendrai une que je connais bien, où la première année, quand un enseignant-chercheur prend son poste, il a une décharge par rapport à ses 192 heures statutaires. Il est à 152 au lieu de 192. La contrepartie, c'est le suivi obligatoire de formations qui sont organisées par son université en matière de formation pédagogique. Patrick Boiron pourrait éventuellement développer là-dessus. Mais je ne peux pas laisser passer que les universités démissionnent, entre guillemets, de leur mission aussi de former leurs enseignants-chercheurs.
Je fais juste un commentaire. Le réseau des SUP, même s'il est de nouveau reconnu, donc les services universitaires de pédagogie, pas toutes les universités en ont. Beaucoup, je vais être un peu méchante, mais un certain nombre d'universités, on va dire beaucoup, ne veulent pas s'engager dans cette partie-là aussi de pédagogie, parce que c'est très onéreux.
Tu as raison, François, mais il y a beaucoup d'universités, enfin moi j'en connais, dont la mienne, qui ne font strictement rien en termes de formation pédagogique du corps enseignant. Il y a énormément qui est fait pour les enseignants, pour les instituteurs, enfin les professeurs des écoles, pour le secondaire, et tout d'un coup on débarque enseignants du supérieur comme si du ciel nous tombait par magie des vertus pédagogiques qu'on n'a pas, dont on n'a même pas idée d'ailleurs, et faut voir nos premiers enseignements qu'on fait, aussi bien en TD, en ED, encore pire en cours magistral. Donc voilà. Donc c'est pas partout, et en plus en dehors de ces formations par université, si on pouvait organiser des formations au sein de nos disciplines pharmaceutiques pour partager ensemble des non pas des intérêts mais des objectifs communs, effectivement, merci Jean d'avoir repris ça.
Je vais quand même faire une réponse par rapport à la proposition de formation. D'abord dire que Anne-Laure a fait des formations à des porteurs de projets, même en visio, pour leur éviter de se déplacer. Donc bien évidemment, si vous souhaitez qu'on organise des formations, soit disciplinaires, soit géographiques, soit mélanger les deux, c'est sans problème. Et ça pourrait même se faire en inter-UNT. On en a discuté d'ailleurs aussi avec Didier Wallot au niveau de l'AUF, parce que la problématique s'est posée aussi pour les pays francophones. Donc il faut qu'on essaie de faire gagner un maximum de temps à tout le monde et faire en sorte que les gens soient opérationnels au moment où ils ont un projet, où ils peuvent s'investir. Donc il faut qu'on s'organise pour ça. Mais à partir du moment où on a un outil qui est fédérateur, on va y arriver.
Juste un commentaire encore sur l'outil, excusez-moi. Scénari plateforme, donc en fait la communauté Scénari a des points relais, donc soit des services, des cellules TI, soit des enseignants qui utilisent cet outil. Ces enseignants sont marqués sur le site de Scénari et peuvent être sollicités lorsque vous avez des questions. Parce que c'est pas toujours, en effet, l'idée d'avoir une formation est bien, mais c'est aussi très agréable d'avoir quelqu'un pas trop loin à qui on puisse poser des questions. Même si on est à l'ère du numérique, la partie géographique est aussi importante. Voilà.
C'est que on aborde maintenant le numérique et la formation continue. Et si vous voulez, on va faire une petite introduction sur qu'est-ce qu'on peut faire dans le numérique par rapport à la formation continue. Et puis après, on va inviter les intervenants Et ben, on aura la joie d'avoir un représentant du Conseil de l'Ordre et qui va nous faire un petit scoop. Donc je vais le laisser tout à l'heure nous faire ce petit scoop. Bon, alors vous avez vu ce qu'on peut faire comme ressource pédagogique. Et donc ces ressources pédagogiques, est-ce qu'on peut les utiliser pour la formation continue? Alors, la formation continue, d'abord par rapport à nos disciplines de santé, il me semble que c'est un impératif, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des professionnels de santé qui ne sont pas up-to-date. On n'acceptera pas de se faire soigner par un médecin qui n'est pas au mieux des connaissances et par un pharmacien qui ne connaît pas les médicaments qui sont sortis depuis qu'il est sorti de la fac. Donc c'est un impératif de santé et on a donc obligation à se tenir informé et à rester formé tout au long de la vie. Mais on a aussi une autre contrainte, c'est qu'on exerce des professions libérales et donc on ne peut pas partir 8 jours, 15 jours, encore moins une année pour faire un DU, un DIU pour se spécialiser. Donc ça veut dire que la formation continue, elle implique des contraintes. Et ces contraintes, ce cahier des charges, je vous propose de le balayer. Bon, alors moi, j'avais un mari parce qu'il a pris sa retraite. Hein, et on en a discuté bien des fois. Et en fait, vu du pharmacien, que ce soit un officinal, un hospitalier, un distributeur, un biologiste, eh bien, les contraintes, je vous propose de les définir en 4 termes. Les premiers, c'est qu'il faut lui assurer une formation de qualité, avec des sujets qui préoccupent effectivement les professionnels. C'est-à-dire que la formation continue, elle n'est pas faite pour les enseignants qui ont envie de valoriser leurs travaux de recherche, soyons clairs, elle est faite pour des professionnels de terrain qui ont un problème à un moment donné et qui veulent une formation en rapport avec ça. Donc il faut qu'il y ait une adéquation entre la formation et les besoins des professionnels. Donc il faut être à l'écoute du professionnel, comme on a été à l'écoute des étudiants, ou tout au moins on a essayé de l'être. La deuxième contrainte, c'est qu'il faut trouver des formateurs compétents, bon là on pense que les universitaires a priori devraient l'être, qui sauront prendre en compte la disparité des niveaux entre les jeunes et les plus anciens pharmaciens. Alors évidemment, vous allez proposer une formation sur les nouveaux médicaments de chimiothérapie dans le traitement du cancer. Ben vous allez avoir une cohorte de 30 pharmaciens d'officine pour la région d'Aquitaine. Là-dedans, vous allez avoir des pharmaciens qui sont frais et moulus, qui sont sortis de la fac il y a 2 ans, et puis d'autres qui sont sortis il y a 20 ans. Ben, il est bien évident que les prérequis ne sont pas les mêmes et que l'expérience n'est pas la même. Donc il faut tenir compte de l'inhomogénéité des niveaux des apprenants. Et là, la présentation de Topaz devrait résonner dans votre tête. La troisième contrainte, c'est qu'il faut prendre en compte les contraintes logistiques et éviter les mobilisations trop longues en dehors des lieux de travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander en pratique à un officinal ou à un biologiste de venir pendant 3 jours, 4 jours, s'il est tout seul à exercer dans son officine, ben, il est clair qu'il faut trouver une autre solution. Et donc il faut tenir compte des contraintes, espace et temps. Et là, on est typiquement dans ce qu'on appelle les dispositifs de FOAD. La quatrième contrainte, c'est qu'il faut mettre en place des modalités qui vont respecter des espaces de rencontre. Il ne faut pas que numérique égale, on anonyme tout, on ne connaît plus les gens, on ne se rencontre plus, on envoie des mails et on ne sait plus à qui on écrit, on ne sait plus avec qui on échange. Donc il faut garder des espaces de convivialité entre les formateurs et les formés et entre les formés, parce que c'est de ces espaces qu'on va enrichir les échanges. Si on est d'accord sur ce cahier des charges, est-ce qu'on peut considérer que l'UNSPF peut proposer une formation qui réponde à toutes ces exigences? Non, parce que c'est pas l'UNSPF qui va proposer des formations. C'est l'université où vous allez vous inscrire. Par contre, elle peut y contribuer. Elle peut y contribuer comment? En proposant de mutualiser les ressources. Donc elle peut y contribuer en proposant des formations ouvertes et à distance. Donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon des FOAD. Pourquoi c'est ouverte et à distance? Eh bien parce qu'il y en aura une partie qui sera faite à la fac, ce qu'on appelle en présentiel, et puis une partie qui sera faite à domicile, sur votre lieu de travail, parce qu'il suffit de vous connecter avec la solution de... en plus de Pierre Raveau, vous allez même choisir si vous avez 10 minutes une ressource ou une autre, et vous allez travailler de votre lieu de travail, et vous pourrez même éventuellement faire contribuer les autres pharmaciens ou éventuellement un préparateur ou d'autres collègues biologistes. Donc avec un dispositif de FOAD, on va résoudre deux problèmes, les problèmes de contraintes espace-temps et l'enrichissement des échanges. Alors après, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir trouver le bon dosage par rapport à votre public. Est-ce qu'ils ont beaucoup de contraintes? Et à ce moment-là, il faut mettre un maximum de modules à distance. Ou est-ce qu'ils ont peu de contraintes? Et à ce moment-là, on peut mettre plus de présentiel. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Moi, c'est ce que je fais dans mon université à Angers depuis les années 2000. On a mis en place des dispositifs de FOAD pour la licence, le L3 de maths, pour la capacité en droit, des diplômes cohabilités, etc. J'allais dire, c'est le travail quotidien des services TIS. Donc, bien évidemment, on peut vous accompagner pour ça. Et donc, du coup, on va proposer un module de formation, un dispositif de formation, un DU, un DIU. On va packager les modules. Et il y aura des modules qui seront faits en présentiel, par exemple ici en vert. Et puis des modules qui seront faits à distance. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut régler le problème d'inhomogénéité des niveaux des apprenants? Eh bien là, on peut le régler avec l'outil que proposait Pierre, en mettant avant la formation, par exemple, un module Topaz, qui va permettre de tester les prérequis qui sont nécessaires pour suivre la formation. Et on pourra concevoir des ressources qui auront probablement été utilisées pour les étudiants, qui pourront être mises en ligne pour mettre à jour les personnes qui sont pas qui n'ont pas les prérequis nécessaires. Et ce module, ces ressources supplémentaires, eh bien, elles pourront être aussi positionnées pendant le parcours de la formation. Alors maintenant, l'adéquation entre la formation et les besoins, eh ben là, c'est l'offre et la demande. Il y a le client c'est le professionnel il a des besoins, il demande des formations, qui peut dispenser ces formations? Donc la proposition que je vous fais, et ben, bien sûr il faut que vous donniez votre avis, eh bien, ce serait de définir avec les professionnels et les partenaires qui sont impliqués dans la formation continue, par exemple les UTIP, les besoins et les formations qu'il faut mettre en place. Ensuite, les universitaires pourraient prendre en charge les formations qui sont diplômantes, puisque ce sont nos missions. Donc on pourrait prendre en charge les DIU et les DU, et prendre en charge des formations qui vont intéresser à la fois la formation initiale et la formation continue. Et là, je vais proposer à Francine de témoigner, par exemple, sur toutes les ressources qu'elle a fait sur le dossier pharmaceutique, sur les ressources que vous avez fait sur le C2I niveau 2, sur tout l'accompagnement sur les aspects juridiques, etc. Typiquement, ce sont des ressources qui peuvent servir pour la formation initiale des étudiants de 6e année et pour la formation continue des professionnels. Et là, faire des groupes avec à la fois des étudiants de la formation initiale et des professionnels, je pense que ça peut être très enrichissant pour tout le monde. Et donc, du coup, on pourrait contribuer à une meilleure harmonisation, à la fois géographique et disciplinaire, éviter à quelqu'un d'aller faire un DIU, comme vous m'avez raconté au téléphone, à Paris, et organiser un DIU à Bordeaux au lieu de le faire à Paris. Donc, ça veut dire qu'on pourrait construire des modules. On pourrait concevoir, les universitaires, dans ce contexte-là, pourraient concevoir et produire des modules de formation. Donc on se met d'accord sur un programme. On met en place un programme d'un DIU et il va être dispensé en Aquitaine, à Paris, dans la région de Grenoble, dans la région de Nice. Donc on se met d'accord sur la production de modules. Ensuite, chacun récupère ses modules chartés à son université et les met dans son dispositif de formation dans son université. Les professionnels s'inscrivent non pas à l'UNSPF, parce que c'est pas elle qui délivre les diplômes, ils s'inscrivent à l'université de Bordeaux, à l'université de Lyon, à l'université de Nice. Comme ils s'inscrivent, ils payent un droit d'inscription, et une partie du droit d'inscription va être reversée à l'UNSPF pour produire d'autres ressources pour un autre DIU. Ça va, c'est clair? Donc voilà mes propositions. Ces propositions pour la formation continue, ben vous imaginez bien que je vais vous faire quasiment les mêmes pour la francophonie, parce que le raisonnement par rapport à un diplôme cohabilité sera exactement le même.
Ce sont sans aucun doute les études qui se distinguent le plus par leur aspect pluridisciplinaire. Vous allez aborder de nombreuses sciences appliquées qui pourront vous amener, comme de nombreux pharmaciens, à pratiquer la biologie médicale, soit au sein d'un laboratoire.
Moi, ce qui me plairait vraiment en bio, c'est d'intervenir directement sur la santé des patients, pouvoir aider les médecins à poser le bon diagnostic. Et puis, la génétique me passionne.
Le métier de pharmacien biologiste médical, c'est mettre au service de la santé des technologies de pointe. On peut travailler dans un laboratoire d'analyse médicale privé, où là on sera plutôt un biologiste généraliste. Et il y a aussi des pharmaciens biologistes qui sont très spécialisés, par exemple dans le secteur de la virologie ou de la génétique. On a un rôle de conseil vis-à-vis des médecins, on a un rôle d'alerte également quand on a des cas de patients pathologiques. C'est un métier avec beaucoup de contacts humains, c'est un métier qui est exaltant parce que d'un point de vue technique et scientifique, on est à la pointe, c'est très enrichissant.
Ces connaissances solides vous permettront de devenir des experts du médicament. Vous pourrez ainsi exercer plus tard au sein de l'industrie pharmaceutique et participer...
Moi, j'ai envie de faire un métier qui bouge, de travailler à l'international. Pour moi, c'est important d'être dans un secteur innovant qui me permettra d'exercer des métiers différents tout au long de ma carrière.
Le pharmacien de l'industrie, c'est avant tout un industriel. C'est quelqu'un qui touche à de multiples métiers. Vous trouverez de la gestion, du marketing, de la production, de l'analyse. Le pharmacien devra innover. Pour lui, ça sera l'accès aux biotechnologies, les nouvelles techniques de chimie analytique. Quel que soit le domaine dans lequel il travaille, il restera toujours le garant de la sécurité pharmaceutique et de la sécurité du patient. Pour travailler dans l'industrie, il faut aimer travailler avec les autres. Il faut avoir envie de construire quelque chose ensemble.
Pour que le bon médicament arrive au bon endroit dans les plus courts délais, il faut une logistique rigoureuse et fiable. Vous serez donc peut-être tenté de devenir des acteurs de cette distribution du médicament.
Moi, j'ai envie de travailler en équipe, de faire des métiers différents dans la distribution des médicaments. C'est important que les gens aient leur traitement quand ils en ont besoin. Je me vois bien m'impliquer dans la sécurité de la chaîne du médicament.
Le pharmacien de la distribution a une mission qui consiste à approvisionner le territoire national et les pays étrangers en produits de santé et notamment médicaments. Sa fonction essentielle, c'est d'assurer la sécurité des flux en mettant en place une traçabilité rigoureuse et en prenant particulièrement soin de produits sensibles et notamment ceux qui relèvent de la chaîne du froid. La distribution pharmaceutique, c'est une véritable école de management, un formidable vivier de possibilités professionnelles, une recherche de qualité et de sécurité.
Au cours de votre cinquième année hospitalo-universitaire, vous aurez l'occasion de côtoyer médecins et malades dans les services cliniques, ce qui pourra peut-être vous inciter à opter au final pour une carrière de pharmacien à l'hôpital.
Pendant mon job d'été à l'hôpital, je me suis rendu compte à quel point le pharmacien hospitalier travaillait main dans la main avec les équipes de soins. Ça doit être super de faire de la recherche et d'exercer à l'hôpital.
La pharmacie hospitalière n'est pas un métier, c'est un ensemble de métiers. On fabrique des médicaments, les médicaments des patients cancéreux, la reconstitution des chimiothérapies, on les contrôle. On prend en charge tous les aspects de la gestion des produits de santé, médicaments ou dispositifs médicaux. C'est à l'hôpital que les médicaments du futur sont évalués chez les patients. C'est avant tout une pharmacie hors les murs qui va vers le patient, au plus près des soignants, au plus près des prescripteurs.
Et nombre d'entre vous souhaiteront sans doute exercer au plus près de ces personnes souffrantes et devenir pharmacien d'officine.
J'aime l'idée d'être au contact et à l'écoute des gens. J'ai envie de les aider. Puis il y a des nouveaux services, c'est un métier qui doit être en pleine évolution.
La profession de pharmacien a beaucoup changé ces dernières années et va encore changer dans les années à venir.
De nouvelles missions ont été confiées aux pharmaciens, l'éducation thérapeutique du patient, les actions d'accompagnement, toutes ces actions sont centrées sur le patient.
Le dossier pharmaceutique permet un suivi personnalisé de la population.
Il sécurise le circuit du médicament, il est un lien entre la ville et l'hôpital. Dans mon métier au quotidien, ce qui est le plus important, c'est d'être capable de comprendre un patient, de mieux sécuriser les délivrances et de répondre vraiment à leurs besoins.
La pharmacie propose un panel de métiers d'avenir, tourné vers l'humain, qui touche de multiples domaines d'activité partout dans le monde.
Vraiment, je le trouve extraordinaire. Hein. Très, très bien.
Oui, encore merci. Donc, Jérôme Parisis-Barbier, président de la section D des adjoints d'officine. Je voulais excuser Madame Adnaud qui aurait aimé être parmi vous aujourd'hui. Elle est naturellement très attachée à tous ces nouveaux outils numériques que vous imaginez pour promouvoir nos métiers et permettre à tous nos professionnels d'exercer de la meilleure manière possible et avec toute la qualité qui s'impose. Donc madame, bah, par rapport à ce que vous nous avez proposé, pour moi c'est très reposant, parce que je crois que j'ai pas grand chose à ajouter. Je voulais surtout insister sur une chose. Enfin, je pense, nos professionnels, je peux au moins parler pour les 27 000 adjoints que je représente, donc les adjoints d'officine en particulier, il est vrai qu'ils ont pris conscience qu'il fallait se former. Et ils ont une véritable envie de valoriser leurs enseignements et leur formation initiale, bien évidemment. Vous l'avez rappelé, la contrainte de temps est majeure aujourd'hui, ça c'est vraiment le numéro un. Je dois rappeler aussi que parmi nos adjoints, et je le dis avec beaucoup de respect, il y a 84% d'adjoints qui sont des adjointes. Et encore une fois, dans cette salle, je vois qu'il n'y a qu'une majorité d'hommes. Mais messieurs, il faut accepter que ces dames qui ont à la fois deux métiers, c'est-à-dire deux femmes, deux mamans et aussi de professionnels, elles n'ont pas six bras. Hein. Elles sont merveilleuses, je crois qu'il faut les saluer. C'est pas la journée de la femme, mais je crois que c'est tous les jours qu'il faudrait vous saluer. Surtout quand en plus on est enseignante, comme quelques-unes d'entre vous ici. Et donc je crois qu'elles sont, en tout cas moi, elles m'écrivent tous les jours pour me dire il faut que vous nous donniez envie de continuer à exercer. Pour leur donner envie de continuer à exercer, je crois qu'il faut leur apporter tous les moyens pour valoriser leur exercice au quotidien. Et cette formation est tout à fait indispensable. Deuxième élément, vous savez que notre ordre, de par la loi, doit veiller aux compétences des uns et des autres. Nous sommes à travers un chantier important de refonte de nos outils informatiques, en train de réfléchir de quelle manière nous aurons les moyens d'intégrer ces nouveaux éléments qui pourront prouver le moment venu que nos professionnels sont bien formés. Alors, évidemment, les propositions que vous nous faites aujourd'hui, nous ne pouvons que les accepter sur le principe. Bien sûr qu'en tant que professionnels, nous avons envie de participer avec vous pour bien caler, mettre le curseur au bon endroit et pour que les sujets correspondent bien à des sujets d'actualité, naturellement. Je voudrais surtout que vous preniez ça en main, si vous me permettez de prendre la parole encore une seconde, parce que moi j'en ai un petit peu assez que certaines officines commerciales, surtout après la sortie de la loi HPST, essayent de nous vendre, à nous professionnels de santé, n'importe quoi tout de suite. Maintenant que la loi HPST c'est le mot à la mode, tout le monde veut le diffuser à sa manière, et on vous propose des pseudo-formations qui n'en sont pas. L'autre jour, et les étudiants le savent bien, je vais souvent les rencontrer. Il y a un étudiant qui est en sixième année, bientôt en stage, me disait « c'est super, j'ai plus que le stage à faire et après je ne remettrai plus les pieds ici ». Alors je l'ai repris par l'oreille, maintenant que j'ai aussi un certain âge, je me suis permis de lui dire « mon garçon, excusez-moi encore messieurs, mais c'est un garçon qui a dit ça, jamais ça sera arrivé dans la bouche d'une fille ». J'ai dit « mon garçon, c'est de plus en plus que tu viendras à la fac ». Alors ne vous laissez pas faire, l'enseignement que nous voulons recevoir pour la formation continue, c'est de vous que nous voulons le recevoir, et pas de marchands, parce que c'est ça, vous avez des structures, des groupements. Vous sachiez qu'aujourd'hui, il y a le forum des pharmaciens à Bordeaux. J'irai tout à l'heure, j'y serai demain. Venez nombreux nous retrouver si vous voulez, bien sûr, vous serez les bienvenus. Mais il faut savoir que la profession aujourd'hui, elle est partie. Elle ne viendra quasiment pas au forum des pharmaciens. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a un groupement de pharmaciens qui se réunit à Reims, un autre qui se réunit à Toulouse. Alors c'est bien plus important pour certains responsables, en tout cas pas ordinaux, je vous assure, d'aller voir des marchands de bonheur, qui racontent un certain nombre de choses qui ne correspondent pas du tout aux besoins de nos professionnels. Donc vous comprenez bien que quand vous, vous nous proposez de prendre les choses en main avec toute la rigueur qui s'impose, bien sûr en concertation, nous sommes ravis que vous puissiez, j'allais dire, enfin vous montrer pour que tous nos confrères, consoeurs puissent se rendre compte que il faut continuer à revenir à la fac d'une manière ou d'une autre. Après, naturellement aujourd'hui, l'outil Internet s'impose puisque vous l'avez compris, vous l'avez bien dit, il faut savoir acquérir l'essentiel à travers cet outil et puis, le moment venu, eh bien, avoir ce présentiel qui, invariablement, sera nécessaire pour finaliser les modules. Enfin, juste pour, vous l'évoquiez tout à l'heure, par rapport à l'OHPST, effectivement, demain, nous, professionnels de santé, nous ne pouvons pas déposer de dossier auprès des ARS et faire de l'éducation thérapeutique en grand, en collaboration avec nos confrères hospitaliers, si nous n'avons pas au minimum ce DU d'éducation thérapeutique. Et c'est normal. Les pouvoirs publics, demain, ne vont pas donner quitus à des professionnels qui n'auraient pas suivi cet enseignement. Donc il nous le faut. Oui, j'entends bien. Mais il nous le faut, et il nous le faut d'une manière facilitée. Voilà, je vais m'arrêter là.
Bah, c'est un discours de rêve. J'attendais pas une réponse pareille. Alors, Bernard, tu l'as choisi et c'est le seul de son avis. Ou est-ce que vous exprimez... est-ce que vous pensez exprimer l'ensemble de la profession ? Parce que si c'est ça, c'est formidable. Et autant le ministère au départ, nous a pas poussé à investir sur la formation continue, autant ils vont nous pousser maintenant à investir sur la formation continue et sur les dispositifs de formation à distance. Donc là, du coup, si tout le monde est d'accord, bien évidemment, ça se fera pas si les enseignants ne mettent pas la main à la pâte. Mais si tout le monde est d'accord, on a vraiment tout, avec en plus le travail qu'a présenté Philippe Vignol hier en inter-établissement, on a vraiment tout pour mettre en place des formations, des DU, des DU de qualité pour lesquelles les francophones pourront aussi participer. Ben merci, parce que vraiment j'attendais pas une réponse aussi chaleureuse.
Vous savez qu'il s'est créé il y a peu de temps ce qu'on appelle les unités mixtes de formation continue au niveau des universités. Bordeaux fait partie des pilotes et le but justement, ça répond à beaucoup de questions dans la mesure où le principe est de mélanger, ce qui est une bonne chose, les universitaires qui proposent, comme tu l'as dit tout à l'heure, et les professionnels qui, bien sûr, doivent être en partenariat dans la mesure où ça doit pas être, comme tu disais tout à l'heure très justement, le plaisir de se faire plaisir de présenter des thématiques les plus ou moins biscornues de notre recherche, c'est d'être à l'écoute de la profession. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est ces unités mixtes, justement, entre les libéraux et l'université. Et la deuxième volonté, c'est une volonté de décentralisation. Et je peux en parler parce que la décentralisation, on a eu la première réunion décentralisée à Dax, dans une structure universitaire que je connais bien, et où justement nous avons eu la première journée de cette unité mixte de formation continue, qui s'est faite donc à Dax, donc est à 150 km de Bordeaux, vers le sud, avec la volonté de drainer, il y avait 4 associations de médecins et de pharmaciens du Béarn, du Pays Basque et des Landes, donc pour montrer justement cette décentralisation, où il y avait la participation de médecins et de pharmaciens. Donc c'est tout à fait quelque chose qui va être maintenant dans un processus qui va être concerté, mais avec une volonté du ministère, c'est cette création d'unités mixtes de formation continue.
Oui, je peux dire également qu'à Clermont-Ferrand, ça, en Auvergne, ça fonctionne. Et on a déjà assuré des formations à l'attention des médecins, des pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, et décentralisées, oui, tout à fait.
Très bien.
Pour revenir à ce que tu disais, je crois que lorsque tu as dit qu'il fallait marier le présentiel et la distance, c'est vraiment là, on va aller de temps en temps présentiellement dans les sites décentralisés, mais ça va mettre bien sûr en compte qu'il va falloir épauler cela par du non-présentiel. Et je crois que là, on est tout à fait dans l'esprit de l'IP3.
Par exemple, on a mis en place à Angers la capacité en droit. Donc c'est l'équivalent du bac. Et c'était un diplôme qui aurait été supprimé en présentiel si on ne l'avait pas mis en formation à distance. Eh bien, la première, ils viennent très peu à la fac, mais la première fois, la première demi-journée, ils viennent pour se connaître, pour savoir qui est qui, pour qu'on leur présente la plateforme pédagogique, pour qu'ils voient les enseignants, parce qu'on n'envoie pas un mail de la même façon à quelqu'un qu'on n'a jamais vu et à quelqu'un qu'on a vu. Les enseignants vont présenter leur formation, expliquer ce qu'ils en attendent, leur expliquer, ben là vous allez avoir des cours, après vous allez avoir des exercices, là vous allez participer sur le forum, etc. Et du coup, ils rentrent chez eux, ils sont accompagnés, il y a une hotline, s'ils ont un problème, ils appellent notre service et on les dépanne. S'il y a quelque chose qui va pas, ils ont un forum qui est réservé aux apprenants, qui est leur défouloir, ce que tu as dans l'amphi, à la sortie de l'amphi, au café. Donc tout est aménagé dans cet esprit-là. On peut faire exactement la même chose pour la formation continue et pour des diplômes cohabilités entre les pays francophones. Bernard ?
Je crois aussi que l'intérêt, c'est la notion d'équipe officinale. Autrement dit, c'est aussi, en termes de management d'équipe officinale, du numérique mis à disposition à un moment X, partagé quand les gens sont peut-être disponibles au sein d'une équipe, ça me paraît très important, alors que jusqu'à présent, la formation continue des pharmaciens, c'était des démarches assez individuelles. Donc ça, c'était une première remarque. Deuxième remarque, on commence à se connaître bien, Françoise et Jérôme. Je crois qu'il y a moyen de faire des choses ensemble. La longueur d'onde me semble pas mal accordée.
Eh bien, écoute, volontiers, moi, les longueurs d'onde...
Et puisque Jérôme...
Physicienne, je comprends bien.
Est-ce que Jérôme a piloté pour la L en santé, le film et puis toute la campagne de promotion, me semble... Comment dire? Il a le... je ne vais pas cirer les pompes, mais... Le sens du concret, de la réalisation, et je crois que vous partagez tous les deux cette volonté-là, et je crois qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses ensemble.
Il y a surtout urgence à le faire. Là, je crois que, encore une fois, je vous le redis, moi je suis très très fier de la manière dont on sort de nos facs et le diplôme que nous avons, mais aujourd'hui, encore une fois, surtout pour l'officine, et hélas, mais ça représente quand même trois quarts des débouchés, j'ai trop de consoeurs, et demain ce sera de mon travail, consoeurs et confrères, qui sont en train de se démobiliser. Donc, en leur montrant à quel point, avec ces enseignements, on attend beaucoup d'eux, et il faut valoriser leur profession. Le film en est un démarrage aussi, j'allais dire, il s'adresse aux jeunes qui veulent embrasser ces carrières, ça s'adresse peut-être aussi aux plus anciens pour qu'ils aient toujours confiance en eux. Il faut qu'on le fasse, ce travail. Il ne faut pas perdre de temps, encore une fois, car aujourd'hui, il n'y a que des sirènes économiques qui leur chantent des chansons. Et ça c'est dramatique. Et malheureusement, pour l'instant, c'est elles qui ont la main et qui ont... On aura du mal à les combattre, je ne suis pas inquiet, mais l'ordre prendra sa part quand il a voix au chapitre, en tout cas où nous serons forcément, bien sûr, à vos côtés pour travailler ces sujets.
Ce que je voulais vous présenter, c'est en fait la démarche qui nous a permis de nous rendre compte qu'avec la création du DP, tout le questionnement qu'on peut avoir avec l'informatique liée à la santé dans le monde professionnel du pharmacien d'officine est hyper important. En fait, si vous voulez, ce que je vais vous présenter, c'est la suite de ce que vous a présenté Philippe Vignol. Ça fait partie de la même démarche, et puis ce que vous a présenté Pierre Raveau. Il faut voir que tout est interconnecté. En fait, si vous voulez, en faisant la formation pour mes étudiants, aussi bien de ce qu'est le système Sésame Vidal, la sécurisation, etc. Et quand le DP est arrivé, on se dit, ben, qu'est-ce que c'est? On a quand même maintenant, en 2010, 10 450 173 DP qui ont été créés, hein, donc dans la population française, c'est quand même énorme. Bon, il faut savoir aussi que avoir un DP quand on n'est pas malade, ça n'a pas d'intérêt, hein, véritablement, encore que. Mais donc, ça montre bien qu'il y a un développement important. 10 millions, c'est vraiment important. Et donc, il y a 17 454 officines qui sont impliquées dans ce DP sur les 23 000, en gros. Hein, je ne veux pas dire de bêtises, 23 ou 24 000, c'est jamais 22. Voilà, 22 450 officines en France. Donc, si vous voulez, vous voyez bien le poids du DP et la vitesse à laquelle, hein, il faut se rendre compte que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel en informatique au niveau d'une création nationale. Le système Sésame Vital, c'est-à-dire ce que vous connaissez avec la carte vitale qui vous permet d'être remboursé à tout moment, c'est un système qui a été imaginé en 1980. Il a été mis vraiment en route en 2000. Il a mis 20 ans à se... Mais pourquoi, vous voyez bien, quand on connaît un peu l'informatique, c'est que c'est vraiment la période du boom entre l'apparition des premiers micro-ordinateurs en 80 et puis l'arrivée d'Internet dans la fin des années 90. Donc on a maintenant un système Sésame Vital qui est véritablement opérationnel depuis l'an 2000. Et par contre, l'ordre a mis en route le DP dans les années 2007 et il est maintenant complètement opérationnel en 2010. Alors, en fait, si vous voulez, au niveau de la réflexion, on s'est dit, il faut former, bien sûr, les professionnels au dossier pharmaceutique. Mais pour ce faire, il faut étudier les technologies de l'information et de la communication au service de la santé. On voit vraiment qu'on est dans les TIS, hein, on est dans la formation des professionnels sur certains facteurs dont on aimerait bien que certains de nos enseignants-chercheurs soient également formés. Connaître la sécurité associée au transfert des données médicales. On est véritablement dans le monde de la santé. Il faut que chacun sache, quand on utilise réellement un support numérique avec des bases de données et avec des transferts de données, qu'il y a des rigidités au niveau de la sécurité qu'on doit tous connaître pour pouvoir dire aux patients, vous faites pas de soucis, ces données vont transiter un peu partout, mais personne ne pourra y avoir accès. Et puis comment optimiser la prescription et la dispensation des médicaments, c'était donc le but initial véritablement, hein, du dossier pharmaceutique. Et pourquoi il a pu ce dossier partir aussi rapidement et se réaliser aussi rapidement? Eh bien parce que les pharmaciens sont informatisés à 100%. Et comme ils ont une obligation d'être sur Sésame Vital. Alors normalement, si j'ai bien suivi mon plan, j'arrive sur la diapositive qui résume ma pensée. En fait, ce que je veux vous faire passer comme message, c'est ce schéma-là. C'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle, quand vous êtes dans une officine, vous avez donc obligatoirement la carte vitale du patient, la carte de professionnel de santé, qui permet de sécuriser les données, vous avez votre lecteur de carte bifond, vous avez le logiciel de gestion officinale, le LGO, vous passez par tous les câbles possibles et imaginables, et vous allez dans la sphère Internet. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les 22 450 officines en France sont toutes sur Internet. Elles sont toutes sur Internet, pourquoi? Parce qu'elles ont une obligation de transmettre leurs feuilles de soins sous forme électronique selon le protocole Sésame Vital, qui s'appuie sur le protocole TCP/IP, donc obligatoirement le protocole Internet. C'est-à-dire que tout pharmacien, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, est sur Internet. Donc tous les nouveaux services qui vont se développer, il va avoir besoin d'une formation, il aura besoin d'un suivi. Hein, parce que comme tout le monde, c'est comme les étudiants, on va sur Internet, on connaît Facebook, on connaît Twitter, on s'amuse avec son iPhone, mais tout le reste, tout ce dont on a véritablement besoin de connaître, on ne le connaît pas. Et puis, bien entendu, ça s'est rajouté avec le DP. Et on voit bien qu'à partir de là, eh bien, on retrouve la présentation de Philippe Vignol, C'est-à-dire qu'en fait, le DP, eh ben, c'est une grosse partie du C2I niveau 2, métier de la santé. C'est-à-dire que, obligatoirement, le DP s'appuie sur du juridique. La CNIL, hein, c'est fortement a fortement planché sur ce système. Et donc, on a le juridique, la sécurité de travail collaboratif en santé, etc. Donc, on voit que former un professionnel de santé sur le DP, c'est le former sur ses âmes vitales et c'est le former sur le C2I niveau 2. Donc, obligatoirement, toutes les applications, toutes les ressources qu'on va créer les uns les autres, avec nos justement, hein, d'autant plus avec le système qui a été choisi pour le NSPF, c'est-à-dire des modules sous scénarii avec des modèles opales et autres qui pourront être transportables les uns les autres, selon le message qu'on va vouloir faire passer, eh ben on va prendre un petit peu plus de C2I, un petit peu moins de ces invitales et un peu plus de DP, ou vice-versa. Et on va pouvoir créer des formations un peu à la lettre. Bon, j'avais commencé, bien sûr... donc là, oui, ça, c'est un autre petit schéma. Bon, c'est toujours pareil. Je veux pas vraiment appuyer. Je pense qu'on a. Mais vous voyez, c'est bien ça. C'est l'EDP, c'est un outil professionnel, donc sécurisé. Donc, au niveau formation des étudiants en formation initiale, c'est leur montrer l'outil, c'est montrer comment on peut sécuriser, etc. La délivrance du médicament. Et c'est un outil pédagogique qui va permettre aussi bien de faire un apprentissage de l'acte officinal que des nouvelles. C2I niveau 2 et compétences. Alors, bien sûr, on avait commencé. Alors, simplement pour vous montrer que très rapidement, on est déjà dépassé, alors qu'avec le système, et c'est pour ça que je comprends tout à fait Françoise qui défend ce système de chaîne éditoriale, qui nous demande tous un effort supplémentaire. Et je voulais quand même vous montrer cet effort que chacun devrait faire. J'ai fait du brise. J'en ai pas honte. Je suis sur le non, mais je veux dire, je veux pas du tout me bagarrer, je veux pas faire une bagarre de format informatique. On se bagarre déjà tous assez entre nos macOS et puis nos Windows machin. On s'en fout, hein, c'est des outils. La seule chose, c'est que si on veut faire quelque chose rapidement, c'est vrai, et c'était d'ailleurs le choix de l'équipe du C2I niveau 2 de l'époque au niveau médecine, hein, il fallait créer des ressources tout de suite, sinon ça marchait pas. Et bien, on fait ce genre de truc.
Après un bref historique, voilà. Nous nous attacherons à décrire l'équipement.
Donc vous voyez que, qu'est-ce que c'est que Brise, en fait, si vous voulez, c'est la sonorisation de votre diaporama. Hein? C'est tout, c'est bien. C'est intéressant pour l'étudiant dans le sens où, oh bah tiens, mince, j'ai pas écouté, je reviens en arrière, etc. Mais ce n'est que ça. Il est obligé d'écouter, de prendre ses notes, hein, et de travailler de cette façon-là. Alors, bien sûr, je vais arrêter ce truc-là. Bon, j'ai fait la même chose avec le DP, je vais pas vous... Donc, ça veut dire que dans un premier temps, quand on veut faire vite, on se dit, il y a des choses à faire, je fais ma ressource, je m'enregistre et je fais ce type de... Alors, on peut mettre la personne qui parle à côté, on peut ne pas la mettre. Vous savez, c'est exactement comme les cours que vous avez en première année santé, avec la petite cartouche. Hein. Et puis après, on a ça sous forme de podcast. Le principe du bris, c'est un peu ça. Eh bien, par contre, si vous voulez, ici, je vais vous montrer une démarche que j'avais faite donc au niveau de scénarii. Donc scénarii, tout de suite, on est sur un média sous forme donc de navigateur internet. On a notre plan, on a des choses à lire, on a plus de... Bien sûr qu'on peut mettre des applications sonores, on peut mettre des animations, mais on est déjà dans une structure, donc c'est exactement ce qui a été proposé tout à l'heure. Et là, on est obligé, si vous voulez, l'étudiant peut avancer à son propre rythme, se balader. Et donc, le professionnel de santé, de la même façon, va pouvoir retrouver, si vous voulez, calmement et tranquillement, dans son officine ou chez lui, un environnement où il va pouvoir, sans être obligé de se dire « Oh, attention, qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Il faut que je retourne en arrière, etc. » Si vous voulez, c'est... Je pense que pour la formation continue, ce support de présentation est hyper important. Alors, si je me souviens bien où sont les... C'est toujours pareil, hein, on montre toujours... Les trucs un petit peu, bon bah c'est ça, c'est qu'à partir du moment où vous avez bon donc toute votre présentation de cours, eh bien comme tout ce qui a été présenté à chaque fois, c'est le modèle opale classique, hein, vous avez la possibilité de faire valider vos acquis avec des questions à trous, des machins, des trucs et autres. Hein. Donc obligatoirement, si vous voulez, quand vous voyez les deux formes, l'un à côté de l'autre sur le même sujet. Et que vous avez la personne qui est la même personne qui a créé ces deux supports, Je peux vous dire que obligatoirement la démarche pédagogique au niveau d'une formation continue où vous allez avoir du présentiel pour une partie et une partie qui va être non présentielle, je pense que le support scénarii est plus intéressant que le support de Brise. Alors l'expérience à Nancy, c'est, je voulais quand même aussi rappeler qu'il ne faut pas oublier que c'est pas le tout de faire des beaux supports, que ça soit sous Topaz, sous Opal ou sous n'importe quoi, de façon à ce que les gens chez eux ou dans leur milieu de travail puissent travailler, il faut aussi les faire venir. Même les professionnels. Alors les professionnels, ce qu'on peut imaginer, et c'est ce que font d'habitude les marchands de formation, c'est qu'ils vont dans l'officine. C'est vrai que l'universitaire, lui par contre, fait venir les enseignants. Mais on a donc de plus en plus dans les facultés de pharmacie, ce qu'on appelle des pharmacies virtuelles, qui étaient les premières pharmacothèques, qui étaient au départ, si vous voulez, simplement pour montrer hein, les boîtes ou les dispositifs médicaux comment se présenter. Maintenant, de plus en plus, dans ces pharmacies virtuelles, on a l'informatique, on a différents types de logiciels, et il faut créer des pharmacies virtuelles, pas une pharmacie virtuelle, plusieurs pharmacies virtuelles, côte à côte ou éloignées l'une de l'autre, pour montrer aux gens ce qu'est le DP, les former au DP. Puisque à partir de là, bien entendu, il y a des médicaments qui sont vendus dans un endroit, qui sont récupérés dans l'autre, et, là, et le discours sur eh bien, les contre-indications. Les, voilà. Donc c'est bon.
Trois mots sur le DP. Trois petits mots. Quand vous en parlerez, même pour vous-même, surtout, si, quand vous êtes patient, toujours la carte vitale autour du cou le matin quand on se lève, pour ne pas venir sans, sinon c'est raté. Tous les médicaments, y compris ceux que vous venez chercher sans prescription, je vous en supplie, il faut tout mettre. Si votre pharmacien veut pas, vous lui dites, mettez-moi tout, c'est pas plus cher. Merci. Et puis vous avez certainement entendu les évolutions, les ponts qu'on est en train d'expérimenter avec l'hôpital, les alertes DGS aussi qui passent par ce canal-là, puisque ces gros tuyaux DP, ça aurait été dommage peut-être de ne pas les utiliser, puis d'autres choses encore avec l'APSAPS, tout ça en réflexion. Donc je crois que c'est un beau travail. Et peut-être qu'il y aura un enseignement quasiment à mi-temps au moins demain pour sur ce sujet-là avec toutes les évolutions que cela aura.
En fait, c'est la perspective qui m'intéresse, c'est pas le passé. Alors construire, je dirais, une formation qui soit adaptée au métier. On a vu le film très très intéressant. Ça part d'un observatoire des pratiques professionnelles. C'est-à-dire que nous formons des professionnels, et le fait d'essayer de regarder ce qui se passe, et je partage tout à fait l'idée de Bernard Muller de l'équipe officinale, c'est-à-dire d'essayer de regarder et d'avoir une formation qui s'adresse à l'équipe lorsqu'on s'adresse à une formation continue qui est destinée à l'officine. On pourrait imaginer les pratiques industrielles, et donc on en a bien mesuré le contour. Essayer d'avoir un observatoire de pratiques professionnelles, j'en rêve depuis que je suis tout petit, dans les facultés. Et donc, quand je dis que je suis tout petit, c'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière d'enseignant. Donc le métier, toujours très très rapidement, hein, trois tâches, trois éléments qui composent un métier, et savoir exactement ce qu'on est capable d'enseigner. Les gestes, la pharmacotechnie, on la perd de plus en plus dans les officines. Le savoir, c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est-à-dire... Et puis le comportemental, ça fait appel aux sciences de l'éducation. Mais c'est vrai que si nous avons un pharmacien antipathique qui ne se recycle pas et qui a perdu les gestes et qui gagne quand même sa vie, eh bien, je dirais, la société centrifugera progressivement et remplacera, je dirais, le pharmacien par des armoires comme les banques ont mis à disposition des billetteries pour que... Donc ça existe déjà et j'ai déjà insisté là-dessus. Alors la compétence, c'est un ensemble de savoir-faire, de savoir-être et de savoir. Donc je passe assez vite sur ces trois-là. Je me suis beaucoup, beaucoup inspiré pour développer l'enseignement de l'apprentissage par résolution de problèmes. C'est-à-dire qu'à partir d'un cas, et ça doit servir à l'ensemble des enseignants, C'est-à-dire que lorsque l'on a la chance d'avoir une discipline comme la pharmacie clinique qui intervient en fin de cursus, c'est-à-dire que là, on est dans un système où on sollicite l'étudiant par rapport à des problèmes qui se posent soit à l'officine, soit dans l'hôpital. Et je reviens de Tunisie où mes collègues et amis tunisiens m'avaient demandé de venir former 75 maîtres de stage. Et nous sommes partis de l'observation des pratiques. Et donc, dans l'apprentissage par résolution de problèmes, nous avons essayé d'utiliser la plateforme spirale. Alors, on y rentre comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez y aller, il suffit simplement d'un mot de passe. C'est une plateforme universitaire présentée par Christophe Battier hier. Là, vous allez sur les études de cas qui sont présentées en cinquième année HU. Donc, c'est des observatoires de pratique de nos étudiants lorsqu'ils sont dans les services cliniques ou lorsqu'ils sont dans les services biologiques ou lorsqu'ils sont dans les services pharmaceutiques. Et alors, on leur demande de toujours, et alors ça c'est une astuce, parce que très souvent mes collègues me disent « Mais comment tu fais pour faire travailler tes étudiants ?» Il suffit simplement de demander qu'à la fin de leur examen, ils aient déposé 8 cas. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, si vous avez 100 étudiants, 8 cas, ça fait 800 cas. Au bout de 5 ans, ça vous fait 8 fois 5, 4000 cas, et au bout de 10 ans, donc vous avez un petit peu, vous avez un observatoire de pratique de ce que peuvent faire les étudiants au niveau de la 5e année HU. Et donc je souhaite, moi, partager cela avec l'ensemble des enseignants. J'ai fait plusieurs propositions, je pense qu'il y a des éléments qui sont... Alors vous imaginez un petit peu dans toutes les facultés si on avait une banque de cas. Après, il faut structurer ces cas. C'est bien un petit peu le challenge que nous avons pour essayer justement, avec une université et une mutualisation de ces cas, qui sont les meilleurs, parce que là, on a de tout. Et vous voyez qu'ici, sur votre zone étudiante commune, les étudiants déposent leurs cas. Et vous voyez, là, j'ai le travail des étudiants. Je peux aller voir que sur cet élément, ce qu'a fait chaque étudiant. Et puis dans la zone étudiante commune, vous voyez que j'ai 828 fichiers. Donc chaque année, on a à peu près le même nombre de cas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez... Alors je me tape, moi, la lecture de ce genre de choses, mais il suffit d'avoir un moteur de recherche et le pharmacologue pourra aller voir, je dirais, l'hémato, l'endocardite, l'infectiologue exactement. Ce sont des histoires vraies qui sont configurées selon un schéma qu'on leur donne, et qui tient compte, je dirais, d'un grand nombre d'éléments que les uns et les autres souhaitons voir apparaître. Alors c'est l'histoire d'un monsieur, il a une infection, et voilà comment ça se passe. On va dans les dossiers médicaux, ils sont à mi-temps pendant un an, je le rappelle, à l'hôpital, et donc ils essayent de répondre aux problématiques qu'on leur demande de formuler. Alors l'expérience, puisque je suis plus en fin de carrière qu'en début de carrière, moi j'arrête de dire aux étudiants, les connaissances, c'est la génération Google. Ce qui est très très important, ce sont les questions qui peuvent se poser. Et je suis effaré de voir, je dirais, une espèce de trop de passivité par rapport à ça. Dès l'instant où il y a un cas clinique, je leur demande de raconter l'histoire de la semaine et je suis dans une stimulation permanente pour leur dire « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Si vous n'avez rien fait, alors autant mettre une plante verte dans un service. Si vous vous êtes impliqué, alors racontez-moi comment vous avez... Et il n'y a pas de banalité, ne serait-ce qu'un petit investissement est quelque chose de très très important. Et donc, les cas, bien après, si vous voulez, vous avez le cas, c'est l'exposé du cas d'un patient. Et puis, définir les problématiques pharmaceutiques et de ne pas être des médecins. Quels sont les problèmes par rapport à l'observance, à l'iatrogénèse, à l'hospitalisation? Pourquoi, s'il est hospitalisé, c'est peut-être à cause des médicaments? Alors ça, c'est quelque chose de... Systématiquement, il y a 3 patients à voir par jour. C'est tout à fait possible. Et chaque étudiant doit voir ses 3 patients lorsqu'il est dans un service clinique. Et là, on a une source d'informations extraordinaires. Alors après, quelles sont les connaissances pour résoudre les problèmes? Ça peut être des connaissances par rapport aux formes galéniques et de la pharmacotechnie. Donc on a une discipline qui est très synthétique et qui peut intéresser tous les enseignants. Après, c'est l'appel aux disciplines et à la bibliographie avec la maîtrise et le niveau de preuve, très important pour être crédible au niveau des pharma et des médecins. Alors on peut faire appel à la chimie thérapeutique, la pharmaco, la pharmacocinétique, la pharmacie clinique, avec des propositions écrites avec plusieurs solutions, et on discute 2 heures par semaine de la validation des propositions par un senior, c'est-à-dire on ne les laisse pas comme ça. Donc j'ai bientôt fini. Donc voilà un petit peu le résumé de notre affaire. L'observatoire de pratique pour avoir un enseignement pertinent, ça doit passer peut-être par des disciplines qui sont en fin de cursus et qui permettent de mobiliser les connaissances à la fin. Alors vous voyez, ces études de cas sont recueillies par les étudiants de 5e année HU lors des stages cliniques. Et puis en 6e année, c'est pareil. Sauf qu'en 6e année, on leur demande un observatoire, c'est-à-dire quelles sont les préparations magistrales, on dit qu'on n'en fait plus. Ben, je peux vous dire, allez sur le site, on a des centaines de préparations magistrales qui sont réalisées dans les pharmacies de Grenoble depuis quelques années. Les ordonnances, les cas vétérinaires, les cas parapharmaceutiques et les cas de gestion. Donc on a cet observatoire dans les pharmacies qui sont rapportés par les étudiants de 6e année HU. De 5e année HU à l'hôpital, et l'ensemble est un observatoire de pratique professionnelle. Et alors, avec les ordonnances, on est en train de travailler sur quelles sont les pratiques de la prise en charge de la BPCO, par exemple, à l'hôpital, et quelles sont les pratiques en ville. Il y a des éléments très intéressants à comparer, et puis vous voyez que c'est des études cliniques, c'est des études de cas cliniques. On leur donne un plan qui leur permet de structurer leur argumentaire de façon à avoir une certaine homogénéité. Voilà ce que je voulais dire. Et en termes de structuration et de mise à disposition, l'université, c'est la mise à disposition des connaissances et la diffusion. Moi, je n'ai aucun problème dans la rétention, enfin, pour diffuser largement cette banque de données ou lui donner accès.